France Musique. Musicopolis. Saint-Nicolas à la plage. La vie dans la nouvelle maison de Krakpaf, sur le front de mer d'Aldeborg, est très animée et bien réglée. Si on y travaille beaucoup dans la journée, le soir, tout s'arrête. Après le dîner, on joue aux dames ou aux cartes, ou pourquoi pas au jeu des sept familles. On bavarde aussi, beaucoup. Bref, on se détend. Au rez-de-chaussée, un grand salon fait toute la longueur de la maison, avec une baie donnant sur le petit jardin et au-delà, sur la mer. On a installé un piano à queue et au mur, le début d'une collection de tableaux dont le premier joyau est un petit paysage pastoral de Constable. Au premier étage, le bureau du compositeur avec une vue magnifique face à la plage de Galais et aux vagues. Ici encore, un piano à queue et un confortable fauteuil devant la cheminée. La table de travail, juste devant la fenêtre, fait face au rivage. C'est dans ce bureau face à la mer que Benjamin Britten compose sa cantate Saint-Nicolas. C'est une commande qu'il a reçue au mois de juillet 1947 pour les festivités du centenaire de Lancing College qui doivent avoir lieu à l'été 48. Lancing est le collège où Peter Pierce, le compagnon de Britten, a fait ses études dans le sud de l'Angleterre, sur la côte du Sussex. L'un des professeurs connaissait déjà l'hymne à Sainte-Cécile de Britten. Il a suggéré que le compositeur écrive quelque chose du même genre, mais à propos de Saint-Nicolas, qui se trouve être à la fois le saint patron des enfants en général et celui de l'école en particulier. « Parlez-moi de Saint-Nicolas », demande Britten. Le professeur lui raconte les nombreuses légendes qui ont cours. « Ah !» s'écrie le compositeur, « j'imagine bien en faire une cantate avec toute une série d'épisodes. » À l'été 1947, celui où Britten reçoit la commande de sa cantate Saint-Nicolas, il fait une tournée sur le continent avec sa troupe d'opéra, le English Opera Group. Il voyage avec Peter Pierce et Eric Crozier, l'écrivain et metteur en scène qui a écrit le livret de Albert Herring, l'un des opéras de Britten donné durant le périple. Les trois compères sont heureux de promouvoir le nouvel opéra anglais en Europe, où les festivals fleurissent un peu partout en cette période d'après-guerre. Mais il est tellement coûteux de transporter les décors, les costumes, les instruments, de faire voyager la troupe, chanteurs et musiciens, qu'ils seront évidemment en déficit à la fin de la saison. Pierce demande « Pourquoi n'avons-nous pas un festival à Aldeburgh ? Pourquoi devons-nous venir en Suisse pour jouer Albert Herring ? Pourquoi ne pourrions-nous pas le donner à Aldeburgh ?» Dans sa cantate Saint-Nicolas, Britten fait entendre les épisodes successifs de la légende de la vie du saint. Le premier est bien sûr sa naissance. À peine sorti du ventre de sa mère, l'enfant s'écrie « Que Dieu soit glorifié !» À la fin du récit de l'enfance de Saint-Nicolas, le héros est devenu adulte et le ténor prend la place du jeune soprano. C'est Eric Crozier qui est chargé par Britten d'écrire le livret de Saint-Nicolas. Au départ, Crozier trouve que c'est plus difficile qu'un livret d'opéra. Il se plonge alors dans toutes les légendes et les textes qu'il peut trouver et finalement il se passionne pour le sujet au point qu'il publiera ensuite un livre sur les légendes de Saint-Nicolas. En septembre 1947, Britten écrit « Eric Crozier a commencé Saint-Nicolas, et ça paraît bien. Je trouve qu'il se développe bien comme poète. Ce sera parfait à mettre en musique. Je lui ai donné la création de Haydn comme modèle. Un bon modèle, il me semble. » En novembre, le livret est terminé. Le 18 décembre 1947, Britten écrit à Pierce. Je commence Saint-Nicolas et j'y prends grand plaisir. Ce sera difficile à écrire car ce mélange de subtilité et de simplicité est très exigeant pour moi, mais très intéressant. Je viens d'avoir le détail des chorales. Je pense que le chœur de filles de St. Michael's devra être relégué dans les tribunes. Il est évident que les bruits du vent et autres conviendront bien à leur voix non travaillée. Oui, tout cela est très excitant et intéressant à composer, mais c'est toujours aussi ardu. Les interprètes pour lesquels Britten écrit son Saint-Nicolas sont tout simplement ceux qu'il trouvera sur place au Lancing College, le chœur de l'école, auquel seront ajoutés des chœurs d'autres écoles de la région. Pour que l'exécution soit simple à mettre en œuvre, Britten a prévu, comme orchestre, un assez petit effectif. Un orgue, un piano à quatre mains, avec des parties qui peuvent être jouées par des amateurs enthousiastes, et des parties de cordes assez simples pour être jouées aussi par des amateurs, toutefois encadrées par des chefs de pupitre professionnels. Le ténor, qui incarne Nicolas, sera bien sûr professionnel lui aussi, tout comme le percussionniste, dont la partie est importante. Des amateurs qui ont travaillé la partition de la cantate Saint-Nicolas, Britten entend bien faire chanter aussi l'Assemblée. Pour ce faire, il introduit dans son œuvre le psaume dit « Old Hundredth », l'un des plus chantés en Angleterre, donc connu du public. Le psaume 100, dont le texte et la musique remontent au XVIe siècle. « All people that on earth do dwell ». Le contraste est frappant avec ce qui précède, chanté par le chœur très agité. Au cours d'une interview, on pose à Britten la question de savoir s'il a du mépris pour les amateurs. Jamais, répond-il. Je crois avec passion au professionnalisme et je pense qu'un professionnel doit connaître à fond son travail. Mais cela ne doit pas l'empêcher d'écrire pour les amateurs. Tout au contraire. Après tout, ils ont toujours été d'un grand poids dans la formation de notre tradition musicale. Il y a quelque chose de rafraîchissant et de spontané dans la musique produite par les amateurs. Ce qui m'ennuie en revanche, c'est l'incompétence de certains professionnels qui ne connaissent pas leur boulot. Ça, j'ai du mal à le supporter. En décembre 1947, Britten passe 3 semaines sur sa cantate Saint-Nicolas. Il achève le premier jet. Il s'interrompt pour une tournée avec Peter Pears. Entre les concerts, il réalise une nouvelle version du Beggar's Opera qu'il va donner avec sa troupe du English Opera Group à partir du mois de mai. Tout le reste de son temps est pris par l'organisation du premier festival d'Aldeburgh qui aura lieu début juin 1948. Persecution sprang upon our church, and stilled its voice. 8 barren years it stifled under Roman rule, and I lay bound, condemned to celebrate my lonely sacrament with prison bread, while wolves ran loose among my flock. Eric Crozier, le librettiste de la cantate Saint-Nicolas de Britten, décrit le compositeur occupé à préparer le premier festival d'Aldeburgh. Il n'était jamais vraiment heureux, à moins que le téléphone sonne, que des piles de lettres arrivent et que des gens se présentent avec des requêtes demandant son attention de manière urgente. Mon impression est que non seulement il avait besoin, mais qu'il savourait vraiment ses demandes, même lorsqu'il avait l'air de grommeler contre les importuns. Le sommet émotionnel de la cantate Saint-Nicolas de Britten est, selon les témoins de la création, l'épisode des Pickled Boys. Pickled comme dans les pickles, spécialité culinaire à base de petits légumes marinés. Ici, il s'agit de la légende des 3 garçons mis au saloir par un boucher peu regardant en période de famine. C'est l'une des légendes les plus connues à propos de Saint-Nicolas, qui a même donné lieu à une chanson populaire. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Saint-Nicolas vient à passer. Il réclame ce qui est dans le saloir et il ramène à la vie les 3 petits enfants, Timothy, Mark et John. Timothy, Mark and John, put your fleshly garments on. Come from dark oblivion. Come. Un ami de Britten se rappelle lors de la création de Saint-Nicolas le miracle des 3 garçons mis au saloir. Épisode où le contraste soudain entre le chant élaboré et les petites voix enfantines d'une chorale locale, en a ému plus d'un, qui avait la gorge serrée et des larmes dans les yeux.
«
La première de la cantate Saint-Nicolas de Britten est prévue au Lancing College, qu'il a commandé, le 24 juillet 1948. Mais auparavant, aura lieu la première édition du festival d'Aldeburgh, et le compositeur voudrait beaucoup y faire entendre sa nouvelle œuvre. Il obtient l'autorisation de Lansing. En contrepartie, on demandera aux journalistes de ne pas en parler et d'attendre la création officielle. Le 5 juin, le samedi après-midi, a lieu le tout premier concert du festival dans l'église d'Aldeburgh, et le public nombreux, dont beaucoup d'habitants de la petite ville, découvre l'œuvre toute fraîche. La première édition du festival d'Aldeburgh sera une réussite, tout comme le sera la création officielle de Saint-Nicolas quelques semaines plus tard dans la chapelle du Lancing College. Un témoin écrit « L'église semblait vivante et à la fin toute la congrégation s'est réunie pour l'hymne final ». De la cantate Saint-Nicolas de Britten avec le chœur du Trinity College de Cambridge, les Holt Singers, les garçons du Temple Church Choir, le City of London Sinfonia sous la direction de Stephen Layton. Programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Cédric Châtelus pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.